bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bonjour.
Daniel Morin.
Salut.
Tom Villard.
Bonjour.
Il y aura Tanguy Passureau. Et nos invités sont Slimane. Un peu plus de bruit quand même.
Ouais.
Et Sabrina Wazali.
Bravo.
Soyez les bienvenus, on va parler d'un film qui sortira le 18 juillet prochain avec donc vous, Sabrina et Slimane, mais il y a également Kevin Michel, Assam Gansi, j'espère que je prononce bien,
très
et
bien.
Maxime Pambé, entre autres, dans ce film qui raconte l'histoire d'une... Il y a deux histoires, il y a à la fois d'un côté l'histoire d'une danseuse qui essaye de s'épanouir dans son art et l'histoire de la quête du père qui est parti depuis pratiquement la naissance,
ouais,
carrément.
Ouais, exactement. C'est vrai parce qu'on a recentré un petit peu en termes de bande-annonce sur la romance, l'histoire d'amour avec Vincent.
Ah oui, il y a ça aussi.
Mais...
Ah ouais, mais comme je sais que c'est que du cinéma et que c'est pas vrai, je...
Tu as tout compris. Voilà. Tu as tout compris. Et c'est vrai qu'on a éludé un petit peu le fait qu'effectivement, à la base, c'est une quête identitaire et c'est cette jeune fille, cette Lucie, qui va à la recherche de son père biologique et de ses origines et de tout ce qui va avec.
Tout commence mal. Tout commence par un accident. En plus, quand ça s'appelle Break, il y a toutes les cassures possibles et imaginables, y compris les cassures en matière de mouvement, de danse, même si oui. C'est pas du break dance qu'il y a dans ce film. Mais enfin, il y a à la fois la cassure, et ils ont tous une cassure, que ce soit Kevin Michel, enfin le personnage de Vincent joué par Kevin Michel, qui lui est en conditionnel, je sais pas comment on appelle ça. Enfin,
il porte un bracelet électronique, oui,
c'est ça, très tendance à New York.
Mais... ouais,
il a son bracelet. Cassure également pour vous, Slimane, parce que vous êtes un ex-danseur qui se retrouve sur un fauteuil roulant.
Ouais, et je suis bien, bien cassé. Moi,
voilà, bien cassé, mais une espèce de quoi, de Jimmy Cricket de tous les autres.
Oui, c'est ça, c'est une lumière. C'est celui finalement qui est le plus cassé physiquement et qui l'est peut-être le moins psychologiquement et qui va aider justement, en tout cas essayer d'aider les autres.
Parce qu'il est, non, mais il est allé tellement loin dans sa cassure qu'il va minimiser les cassures des autres en disant faut se calmer.
Oui, faut se calmer, faut vivre, faut essayer d'apaiser tout ça et que ça se passe bien en fait.
Ça vous a aidé de jouer pour votre premier rôle au cinéma, de jouer un rôle dans un fauteuil roulant, c'est-à-dire que tout de suite, ça vous met dans le personnage, dans une situation.
Non, sincèrement, c'était justement le
pour quoi. L'inverse.
C'est ce qui m'a fait vibrer, ce qui m'a donné envie de jouer le rôle de Malik, mais c'est ce qui était compliqué. Je me suis trimballé avec une chaise pendant toute ma première tournée. J'ai été rencontré aussi des personnes qui vivent vraiment sur ces chaises-là. Et puis le réalisateur Marc a été super dur avec moi entre guillemets et à chaque fois il m'envoyait des messages en train de me dire t'es sur ta chaise là, t'es en train de le faire chez toi.
Pourquoi il fallait être autant sur une chaise?
Parce qu'il fallait que je sois à l'aise dessus, fallait que je comprenne aussi la psychologie de quelqu'un qui est sur une chaise et qui vit au jour le qui vit dessus au jour le jour.
Oui.
C'est à dire que je ne savais pas, c'est très bête, mais je savais pas qu'aller aux toilettes pouvait être aussi compliqué dans une vie. Et il se dit, en fait, tout ce que vous vivez, vous, franchement, faut se détendre, c'est pas si grave que ça. Et la vie, elle peut être belle. Et regardez, moi, malgré ça, je suis souriant, je suis solaire. Alors, essayez de l'être aussi.
Et il fallait que je comprenne ça. Et il est dans la construction aussi. Il y en a un qui est dans la construction, c'est votre personnage. Au milieu de, en proposant des vidéos, en proposant des...
Ouais, il est créatif.
C'est ça.
Il est très créatif. Et surtout, ça reste un danseur du début... jusqu'à la fin du film, malgré qu'il soit sur sa chaise roulante, il danse en chaise roulante à sa manière. Et puis oui, il y a une attitude, il y a quelque chose où il fallait qu'il trouve son aisance sur cette chaise. Quoi.
Alors justement, parlons, et ça c'est réussi, parlons du corps, parce qu'il est aussi mis en valeur par... alors Kevin Michel est un danseur, était danseur.
Ouais. Oh là là.
Il jouait déjà le rôle d'un danseur dans Divine. Il est à nouveau danseur dans ce film. Mais vous Mais vous Sabrina, on vous a plutôt vu faire de la scène et jouer et faire rire, mais ou émouvoir, mais danser. C'était votre truc.
Danser. Bah, danser, c'était fou, c'était dingue, c'était un challenge. J'avoue que moi, je suis très très fan des films un peu américains sur la danse, mais que ça part de Flashdance, Dirty Dancing, à tout et n'importe quoi, même Sexy Dance. Voilà, on va pas se mentir, Fame, bien évidemment. Donc il y a quand même un petit rêve de gosse dans l'idée de me dire, ok, ouais, je peux interpréter peut-être une danseuse, apprendre cette discipline qui est très très loin de mon art à moi, qui effectivement est la comédie. Et puis, ouais.
Mais est-ce que vous avez pris des cours de danse en étant petite fille? Non, non, mais en étant petite fille, à, je sais pas, 7-8 ans, comme
oui,
souvent pour les petites filles.
Un petit peu, c'est vrai, j'ai fait un peu de modern jazz et un peu de danse classique, mais de toute façon, et même là maintenant, dans la vie de tous les jours, je fais du cirque, je fais du tissu aérien, mais finalement, le breakdance, c'est quand même une attitude, c'est quand même quelque chose dans le corps qui est différent de toutes les autres danses et qu'il fallait aussi apprivoiser, apprendre, et donc effectivement, j'ai pris 10 mois de cours de danse, 7 jours sur 7, 8 heures par jour. Ouais, j'étais merveilleusement bien accompagnée par Simamed Ben Halima, qui est un grand danseur et qui a été notre chorégraphe, et puis par Kevin Michel, qui effectivement m'a vachement, vachement soutenue et donné confiance en moi, parce que ouais, je flippais quoi, je flippais de...
D'ailleurs, entre les premières répètes et le tournage du film, Sabrina s'est fait des abdos et des biceps incroyables.
Et apparemment, tu allais vérifier.
Mais non, on le voit dans le film. C'est que la fille s'est tellement entraînée que c'est devenue une vraie athlète. Elle a fait, et puis, moi, je dis tout parce qu'elle ne va pas le dire, mais il y a plein de choses où elle aurait pu se faire doubler surtout. Et c'est elle qui danse, qui fait.
C'est ça la force aussi du film, c'est que l'on voit clairement que vous n'êtes pas doublé. En tout cas, il y a. Non, mais c'est vrai.
Alors, attention.
Oui, ça peut.
Ça, c'est compliqué.
Non, on voit bien. On voit bien les hésitations.
C'est pas nul, mais c'est juste dessus.
Alors, je finis ma phrase. C'est pas genre un gros plan pour l'avoir dansé, puis un plan tellement large qu'on voit juste un chignon posé sur une tête. On dit, okay, c'est la même.
Mais avec un peu de barbe quand même.
Voilà, c'est ça. Mais en l'occurrence, on se pose pas un dixième de seconde la question de savoir c'est elle, c'est pas elle. Et tant mieux parce qu'on est plus. On sortirait de l'histoire si on se demandait. Si c'est bidon, bien si sûr. C'est trafiqué, on sortirait de l'histoire. Or là, on est totalement dedans, y compris avec votre appréhension de dire je suis pas prête, je veux pas aller danser, votre peur de l'accident à nouveau, puisque le tout début du film, on l'a pas raconté quand même, c'est quand même plus important avec ce titre break, c'est que vous êtes en train de danser avec votre partenaire, et puis il y a un accident, c'est de la danse presque de la voltige.
Oh, ouais, c'est ça. La danse de façade à 13 mètres de haut.
Voilà, accroché à un câble, avec un harnais, avec tout ce qu'il faut en termes de sécurité, en train de danser sur la façade à la verticale d'un immeuble, et puis le harnais lâche, c'est un accident, vous tombez, c'est le coma, et la remise en cause à la fois de votre art, vous êtes dans les brumes et vous demandez si vous voyez ou pas votre père que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissiez pas, et c'est toute l'histoire part de là.
Ouais, effectivement, de cette cassure, de cette chute, et puis après l'appréhension d'avancer dans la vie et de forcément se dire que pour avancer, pour s'épanouir personnellement, il va falloir aussi aller à la recherche de ses racines, de ses origines et donc de son père biologique. Et puis ça va emmener à tout ça et à cette rencontre avec Vincent. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, on a fait tout de suite le choix aussi avec Marc Fouchard.
Le réalisateur
que j'embrasse, qui nous écoute et qui est exceptionnel, qui de pas me placer aussi en breakdanceuse, en danseuse professionnelle, qui en a fait toute sa vie. Effectivement, elle est aussi dans cet apprentissage du sol, parce qu'elle a toujours eu l'habitude de danser en hauteur, soit par le tissu aérien, par le cirque ou par effectivement cette danse de façade. Et puis, finalement, même moi, en tant que personne humainement, j'ai traversé ce que Lucie a traversé, la peur du regard de l'autre, d'affronter ce nouveau registre, d'être face à des vrais danseurs et des bons, et pour le coup, on a eu le meilleur, et d'effectivement ne pas se laisser manger par la pression et essayer de...
D'assurer. Alors lui, il est gaulé quand même, hein, le Kevin Michel. On va dire un truc quand même. Là, je sais pas s'il y a des effets spéciaux, mais au niveau des abdos, des pecs, de la dégaine, c'est le mec affûté de chez affûté. Lui aussi, le travail de comédien est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur j'imagine, les heures aussi de boulot qu'il a pu faire pour être un vrai comédien et pas juste un danseur qui fait du cinéma.
Ben c'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, Kevin, il prend les choses très très sérieux. C'est quelqu'un de rigoureux, d'efficace et très pro bien sûr, mais surtout très très, c'est un bosseur, c'est un travailleur, et effectivement il prenait pas les choses à la légère, et effectivement il s'est donné, et moi ça a été un plaisir de jouer avec lui. C'est même pas de la réplique pour le coup, c'est d'être dans les yeux l'un de l'autre et de kiffer quoi, de jouer.
Et puis il y a la musique.
Ah oui.
La BO, elle est incroyable.
Ah ouais, c'est... on a quand même du mal à rester en place avec, avec Diana Ross, Nas.
Ah oui, ça c'est l'arrivée dans 93.
Et puis alors vous, Slimane, le problème, c'est que... Enfin, le problème, on vous connaît avec vos succès.
Ouais.
Le piège, c'était d'être pris pour le Slimane chanteur, de dire « Viens faire un film et tu joueras le rôle d'un chanteur ». Ça, ouais. C'était peut-être un piège. Ce qui n'est pas le cas, puisque là, vous êtes un danseur, en l'occurrence.
Ouais, pour être très franc, c'est quelque chose qui m'a desservi au départ, avec mes premières rencontres avec Marc. Il ne voulait pas d'un chanteur, Marc. Il voulait vraiment d'un comédien qui puisse faire un peu de rap, parce que c'est vrai que j'en fais un peu dans le film.
Il y a beaucoup de battles, que ce soit des battles de danse.
Ouais, voilà, c'est un battle de rap, exactement. Mais ouais, c'était plus un handicap au départ, en tout cas. Et j'ai tout fait pour faire presque oublier que j'étais chanteur.
Et pourtant,
il est temps de tourner la page et de fermer le livre,
des frissons.
De sortir de ta cage pour essayer de vivre. Il est temps de tourner la page et de fermer le livre, oublier ta rage, essayer de vivre.
Break, ça sort le 18 juillet. Sabrina Ouazzeni et Slimane sont nos invités. J'espère, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi ils étaient là.
Ah oui, pour Break.
Vous merci. Le bien. Merci.
Voilà, ça merci. Leïla, tes oreilles ont sifflé.
Escroc.
Non, mais c'est un film sur la danse. Et on va se dire la vérité, les films sur la danse, c'est pas ma spécialité. Je vais même aller plus loin, on va peut-être perdre des auditeurs, mais c'est pas grave. J'ai jamais vu Dirty Dancing. Voilà.
Wow. La quoi
est attends, lâchée. Attends, excuse-moi, tu peux répéter ça
à partir de ce moment-là.
J'ai jamais vu Dirty Dancing. Ça
j'ai
va,
envie
ça
de quitter le studio, les gars.
Ça arrive à tout le monde de louper un truc important dans sa vie, demander à François Fillon. Voilà, il sait ce que oui, j'ai jamais vu Dirty Dancing, et pourtant c'est pas faux de le voir passer à la télé. Il repasse toutes les deux semaines sur la TNT entre deux épisodes des Simpsons et trois de Julie Lescaut. Tu sais, c'est le genre de film où tu dis ah merde, bah il y avait Dirty Dancing ce soir, mais t'es à 10 minutes de la fin du film. Tu fais ah putain, il était sur Chérie 25, mais j'ai Chérie 25 moi. Donc voilà, j'ai jamais vu Dirty Dancing, mais la scène du porté, je l'ai vue 200 fois. D'ailleurs, les filles, dès qu'il y a, vous avez bu deux verres et que dans un bar il y a Time of My Life qui passe,
on s'emballe.
Arrêtez de vouloir refaire le porté. Ça sert à rien. Dans le film, l'actrice, elle pèse 38 kilos avec la robe. Toi, t'es en doudoune avec ton sac à main. Tu refais avec un mec qui arrive même pas à porter une télé dans un déménagement et toi, t'espères avoir de la grâce. Tout ce que tu risques, c'est un rendez-vous chez le dentiste le lendemain. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis que j'ai jamais vu Dirty Dancing, on me juge, on fait quoi? T'as jamais vu Dirty Dancing? Marina avait eu le même problème il y a quelques mois, vous savez, quand elle avait dit qu'elle connaissait pas Tom Petty.
Marina ne te connaît pas, Tom Petty?
Mais je vous rassure, personne ne sait qui est Tom Petty.
Tom Petty,
non, mais ce que je veux dire, c'est Tom Petty, en termes de popularité, c'est pas Johnny Hallyday. Quand tu dis que t'as été ému quand Michel Drucker a pleuré pour la mort de Johnny et que le gars en face, il dit qui a pleuré pour qui? Bon, là, tu sais que lui, tu le veux pas dans ton équipe au Trivial Poursuite. Mais quand t'as loupé un film comme Dirty Dancing, c'est plus dur. Moi, je me dis, le film est sorti il y a 32 ans. J'ai eu, je sais pas, les 25 ans pour le voir. Si je l'ai pas vu, bah, c'est pas grave. C'est qu'il y a une raison. Alors voilà, je vous fais la liste.
Il suffit de te regarder danser pour comprendre la raison.
Oui. Et j'ai fait de la danse. Non mais voilà.
Pourtant, tu as un très joli corps.
Non mais ce que je veux dire, c'est que je vous fais tout de suite la liste des trucs cultes que j'ai pas vu. J'ai pas vu Game of Thrones, j'ai pas vu Shining, Orange Mécanique, Barry Lyndon, 2001, l'Odyssée de l'espace. En fait, je suis assez nul en Kubrick. Voilà, et je vous emmerde. Alors, faut arrêter avec ce disque. Non mais ce que je veux dire,
Que les gens étaient polis sur France Inter.
Moi aussi.
D'un coup, on est sur Skyrock et tout.
On va pas nous écouter.
Non mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, les gens qui disent faut que tu le vois, moi ça me bloque encore plus en fait. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai jamais vu, parce qu'on me l'a tellement raconté que j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois.
Ça je peux comprendre.
Et on me dit oui mais les répliques sont cultes, mais vous avez vu la pauvreté des répliques cultes? On laisse pas bébé dans un coin. C'est le mari de Véronique Courgeot qui a écrit ça ou quoi? C'est Johnny, arrête de courir après ton destin comme un cheval sauvage. C'est pas un crime de porter des pastèques. C'est une Barbie qui a écrit les dialogues ou quoi? Audiard, Scorsese, Tarantino, ça c'est des auteurs. Celle qui a écrit Dirty Dancing, son œuvre la plus réussie, c'est une déclaration d'impôt. Donc laissez-moi tranquille avec Dirty Dancing. Si vous avez compris, si vous voulez me faire un cadeau, je suis sûr de ne pas avoir, c'est le DVD Dirty Dancing et l'intégrale de Kubrick. Et à la limite, si vous voulez être sûr que je le vois, mettez-moi un petit mot du style « Les regarde pas, c'est des merdes ». Et là, peut-être que je serai intéressé.
Merci, Tom Villa.
Allison, remets tes chaussures, arrête, c'est ça.
J'essaierai de porter avec toi un jour.
Non, mais ce qui est important aussi, c'est l'histoire qu'il y a autour. C'est pas uniquement un film de danse. Il faut pas s'arrêter à ça. Il y a des pures scènes de danse. C'est toujours délicat. Moi, j'ai peur quand il y a de la danse au cinéma parce que ça peut être un vrai gâchis.
Très, très
Et là, c'est très très bien filmé. On sent que Marc aime ça. Oui. Marc Fouchard qui réalise.
Qui est un ancien breaker d'ailleurs.
En plus.
Ah, oui, qui est ancien
et c'est là où on voit que c'est pas. C'est ça, on va au-delà de la danse, ça devient du sport, ça devient un truc physique avec un dépassement de soi qui est assez bluffant.
D'ailleurs, on voit l'entraînement physique à la Rocky, quoi, monter l'escalier. On regarde un peu le paysage et on va à la conquête de Paris ou de la danse, quoi.
C'est faire travailler le cardio, les muscles et créer ensuite et ne pas reproduire des gestes qui ont déjà été faits par d'autres, puisque ça aussi, ce sont les défis qui se lancent les uns avec les autres. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Sabrina Ouazzani et Slimane venaient dans l'émission.
Oui, et on va commencer avec vous, Slimane, parce que quand je pense à vous, je pense à un coup de gueule que vous avez lancé dans les médias.
J'étais en Thalys et il s'avère qu'il y a un contrôle du wagon. Oui. Et donc tout le monde se fait contrôler, on nous demande nos pièces d'identité, donc je donne ma pièce d'identité, mon manager donne sa pièce d'identité. Il s'avère que le policier garde ma pièce à moi et que je lui demande pourquoi il garde la mienne. Il me répond, c'est pour une vérification. Donc instantanément, je me dis qu'il le fait à plusieurs personnes, un peu choisi au hasard, et c'est cool, donc j'attends qu'il me ramène ma pièce d'identité. Et là, je me rends compte que je suis la seule personne à qui il a demandé la pièce d'identité, quoi, en tout cas à qui il a pris la pièce d'identité pour faire une vérification.
Alors, voilà, un récit. Non, mais c'est vrai, c'est toujours ça assez édifiant d'entendre ça.
C'est une marque de respect.
Alors rassurez-vous, moi ça m'est arrivé plein de fois aussi, dans des paris Strasbourg. Non, mais d'être. Mais c'est important. En même temps, on va aller plus loin. Enfin, ce coup de gueule, moi j'ai trouvé intéressant parce que vous racontez en fait avoir vécu un contrôle au faciès, on va dire les choses. Et ce qui m'a interpellé dans une interview, vous dites voilà, j'ai reçu des centaines de témoignages après avoir posté cette vidéo. Je me suis dit, t'as eu raison de la faire. Si tu vends quelques disques en moins pour ça, bah, c'est pas grave parce que le temps d'une journée, celles et ceux qui ont déjà vécu ça ou qui vont le vivre, et bah, se sentiront un peu moins seuls.
Ouais, je crois que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une vraie tribune qui est pas donnée à tout le monde, qui est pas donnée à mon petit frère, qui sont pas donnés à mes cousins. Mm-hmm. Et en fait, j'ai pensé qu'à eux. Je me suis dit qu'eux ne pouvaient pas parler, en tout cas ne pouvaient pas être écoutés. Moi, c'est ce qui m'a manqué toute ma vie, de ne pas être entendu. Et aujourd'hui, maintenant que je peux l'être, j'essaie de le faire correctement et avec les valeurs qu'on m'a inculquées. Et les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est la tolérance, le partage, c'est l'égalité.
Et le respect.
Et surtout le respect. Et à ce moment-là, je me suis senti tout sauf respecté. C'est ce qui m'a bouleversé. Et je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça, en tout cas à ta place, là où tu es. Et ben, c'est d'en parler. Et j'essaie d'en parler comme je pouvais.
Et quand vous dites éventuellement je peux vendre moins de disques.
Oui, parce que je crois...
Est-ce qu'en 2018, en France, on peut vendre moins de disques parce qu'on dénonce un contrôle au faciès et une inégalité de traitement?
Oui, je pense, parce que moi, je viens d'une grosse émission de télé avec beaucoup de médiatisation, ouais. Avec un panel très large.
The Voice.
Et forcément, je touche plein de gens différents, parfois des gens qui ne connaissent ni la banlieue, ni la culture à laquelle j'appartiens.
Ce qui est génial.
Ce qui est génial, bien sûr, mais et du coup, à partir du moment où tu parles un peu trop, j'ai pu lire par exemple, regardez, on leur donne une victoire dans nos émissions et maintenant on leur donne des victoires dans nos émissions et maintenant ils crachent dans la soupe ou quoi. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est pas grave parce que moi, tous les gens qui m'ont inspiré, les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, je pense à Balavoine, à plein de gens comme ça, c'est des gens qui l'ont ouvert et qui se sont pas tus. Et pour rien au monde, je voudrais me taire. C'est pour ça que je fais de la musique, c'est parce que j'avais pas envie de me taire.
Pour continuer à être entendu. Et vous, Sabrina, on a reçu Aïssa Maïga, Firmin Richard il y a quelques semaines pour leur manifeste.
Moi, je les adore.
Pour leur manifeste, vous savez, noir n'est pas mon métier.
Bien sûr.
Est-ce que vous avez subi dans la carrière de comédienne une forme de discrimination qu'elles ont dénoncée je pense qu'elles ont mis assez longtemps à en parler parce que c'est assez souterrain, souvent c'est un peu pernicieux. Et finalement, quand elles accumulent tous ces témoignages, on se dit, moi, personnellement, après la lecture de ce bouquin, j'étais complètement décontenancée.
Bah, bien sûr. Non, mais moi, j'ai eu double.
C'est quoi le double?
C'est-à-dire double. Bien sûr, je suis maghrébine. Ça se voit sur ma gueule, donc je peux pas faire autrement. Et ça s'entend parce que, et ce qui s'entend, c'est que je viens de banlieue. Donc, effectivement, pendant très très longtemps, il y a en plus, j'ai commencé avec un film qui traite, qui parle de banlieue, l'esquive d'Abdelatif Kechiche, effectivement, où je te jouais une forte tête, une grande gueule et qui était plein de gros mots. Donc forcément, on m'a un peu catalogué dans ça. D'abord dans la petite banlieusarde de service et puis ensuite, et aussi en même temps, les deux, allez, pourquoi pas, on fait un kiff, on fait un mix. Forcément, l'arabe de service, entre guillemets, mais je pense que le cinéma évolue. Moi, ça fait 16 ans. Que je suis là, 16 ans que je fais ce métier, ça rajeunit pas. Et mais du
ça
coup,
va, ça va. Je ouais. pense
mais du coup,
on réussit à jouer encore le rôle d'une fille avec ses parents au cinéma, donc ça va.
Ouais.
Ça passe. C'est le jour où on vous dira, tu joues le rôle de la maman maintenant.
Oui, c'est ça. Mais ça arrive, hein, ça arrive.
Et d'ailleurs, dans Break,
dans Demi-sœur ou dans Break, vous êtes encore la fille.
Et d'ailleurs, dans Break, vous êtes la fille d'un couple mixte. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que progressivement, voilà, vous pouvez être la fille un peu du cette mère un peu bourgeoise, établie dans un très bel appartement, donc ça veut dire que les choses évoluent un peu.
Mais tu sais, ce qui évolue surtout, c'est le fait qu'on n'en parle pas, en fait, qu'on ne le dise pas. Tu vois, qu'on le voit.
C'est normal.
Juste, tu vois que ce soit normal, exactement. Ouais. Et puis, j'ai fait l'embarras du choix avec Alexandra Lamy et Anne-Marie Vin, tu vois, dans lequel, pareil, on s'en foutait.
Demi-sœur.
Juste une blogueuse. Demi-sœur, bien sûr, mais tu vois, en fait.
Demi-sœur, elle
bah, demi-sœur, elle, je viens de cette famille maghrébine qui a sa culture. Et
couple mixte.
Oui, couple mixte, mais il y a quand même les vannes sur.
Couple mixte.
Musulman. Juif, catho,
le père a fait des roues, donc ça veut bien dire
que ça, pour le coup, il allait voir partout si l'herbe était plus verte ailleurs. L'herbe était plus verte ailleurs, c'est clair. Mais non, effectivement, moi, ça fait quand même quelques années que j'ai la chance de rencontrer des réalisateurs, tu vois, Edouard Baird, avec qui j'ai fait Ouvert la nuit,
que
je suis totalement fan et que j'aime énormément. Edouard, le rôle que j'interprétais dans Ouvert la nuit, c'était le rôle d'un garçon à la base. Mm-hmm. Le rôle s'appelait Arthur. Donc tu vois ce que je veux dire, et puis finalement on s'est rencontrés, et puis il m'avait proposé un autre rôle, et puis plus on a avancé dans les répétitions, plus on s'est entendu, et plus finalement il voyait des mecs pour Arthur, et puis il s'est dit bah pourquoi ce serait pas toi, en fait, tu veux bien être mon Arthurette. Et moi je trouvais ça fou, je trouvais que Edouard c'était, tu vois, le y a pas mieux, y a pas plus ouvert en fin de compte finalement d'esprit. Il s'est dit tu peux être mon Arthurette, c'est un mec, c'est pas grave, j'aurais écrit pour toi et alors, tu seras mon acolyte, quoi.
Alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui en rôle, en quoi vous sentez une forme encore de potentielle mise à l'écart sur
je pense que ça évolue effectivement,
enfin, mais est-ce qu'il y a encore une mise à l'écart surtout?
Oui, il y en a encore, tu sais, et puis on va pas se mentir, tu vois, moi au moment de tous ces départs,
ça sera la phrase du jour, hein, on va pas se mentir,
je l'ai dit plusieurs fois.
Non, pas plusieurs,
c'est vrai, je m'en rends pas compte.
ça dépend, tu veux qu'on compte en dizaines ou en centaines?
Ouais, c'est ça,
non. On va pas se mentir, tu l'as beaucoup dit.
Je vais faire attention.
En même temps, il est très sincère.
Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, moi, après tous les départs au djihad, en Syrie ou je ne sais quoi, mais le nombre de scénarios que j'ai reçus sur ça.
Forcément.
Le nombre de scénarios que j'ai reçus. Tiens, et si tu jouais une petite nana qui s'est radicalisée?
Attends, Sabrina, il faut prendre le
genre de choses.
Prenons le problème dans le sens inverse.
Ouais.
Il y a ce qui se passe dans notre planète avec les départs en Syrie, le djihad, la montée de l'intégrisme. Quelqu'un écrit un scénario là-dessus. Il veut faire jouer un rôle. Il va aller chercher une comédienne qui peut représenter.
Il n'y a pas que des Sabrina ou des Leïla qui partent.
Exactement.
Il y a des Julien
et des Jennifer et des Alison.
Énormément.
Aussi,
énormément.
On en parle peut-être un peu moins.
Mais après, ça, en fait, moi, c'est surtout.
S'il a besoin de trouver le rôle d'une musulmane,
tu as raison.
Il va chercher une musulmane.
Tu as raison.
Ça ne posera pas de problème si tu lui proposes ça, mais que 15 jours après, tu lui proposes une comédie romantique où elle est à l'affiche et elle incarne la femme moderne.
Oui.
Ce qui est le cas.
Ce qui est le cas, c'est-à-dire que c'est encore une minorité quand même, tu vois ce que je veux dire, mais
non, mais on est plutôt.
Ça évolue, ça s'améliore.
Plutôt que ça se dégrade.
Mais grave.
Heureusement. Voilà. Non, moi, ce qui m'a plus choqué
dans le
manifeste, c'était d'apprendre qu'encore aujourd'hui, une comédienne noire qui est au César ou qui est en bas des marches du Festival de Cannes, quand elle veut un raccord maquillage, la maquilleuse n'a pas de quoi la maquiller parce qu'elle elle n'a que de quoi maquiller.
Mais ça, c'est souvent.
C'est la même chose pour mes cheveux, hein. Excuse-moi, mais c'est la même chose pour mes cheveux.
Bon, en même temps, tu fais pas d'efforts.
Pour ceux qui ne savent pas, Sabrina a un gros chignon sur la tête.
Aujourd'hui, on peut rien dire.
C'est
peux venir buzzer sur ma tête et tout à tout moment. Gorgone
Méduse, tu vois. Gorgone, tu sais pas ce qui se passe.
Ouais,
ça me fait pas rire, les blagues sur les cheveux.
Non, mais effectivement, j'ai les cheveux bouclés.
Ça, je trouve ça plus choquant qu'une production télé.
Non, mais écoute son exemple, ça veut dire que même
bah oui,
Sabrina,
j'ai les cheveux bouclés, frisés, effectivement, tu vois. Ou moi, une de mes comédiennes, là, au Festival de Cannes, pour mon court-métrage, ouais. On lui a envoyé des coiffeurs, et les coiffeurs lui ont dit « Mais c'est moche, les cheveux bouclés.
Wow.
Il faut que tu les raidisses. » Oui, mais non, en fait, moi, j'ai envie de garder ma nature, j'ai envie de rester comme ça avec mes cheveux bouclés. Oui, mais c'est moche, en fait. Là, c'est une faute de goût, je te le dis tout de suite. Et puis moi, de toute façon, je sais pas faire.
Mais c'est un fou.
Entendre ça, c'est dingue. Ouais. Pour moi, c'est difficile quand même de trouver un coiffeur ou une coiffeuse qui saura me coiffer, tout simplement. En fait, c'est con à dire.
Non, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'il faut une spécialiste de coiffure cheveux crépus et spécialiste cheveux raides. Quoi. Bah, ça devient, maintenant, on devient dans la communauté des coiffeurs.
Mais c'est ça, c'est complètement fou. Mais c'est là où c'est complètement dingue, ouais, vraiment.
Donc il y a encore du boulot.
Oui, il y a encore du boulot. Mais ça s'améliore.
Le film s'appelle Break. Il sort le 18 juillet prochain, réalisé par Marc Fouchard. Sabrina Ouazzani et Slimane sont nos invités. On parlait de cheveux, on parlait de rousse.
Ah non, c'est bon. Je suis en train de me réveiller, excusez-moi.
Quand tout le monde te regarde.
Voici Marie Cystite.
Bonjour à tous, bonjour Nagui, c'est Marie Cystite de la Manif pour tous. Oui, elle aime péter, mais elle aime le sport également. Oui, n'en déplaise aux intellogauchias de France Inter, j'aime le football. Et d'ailleurs, à la Manif pour tous, on s'inspire souvent des chants de supporters pour faire nos slogans « Qui ne saute pas est païen hein ?» Jésus est magique. Non, j'adore ce moment de l'année incroyable où les gens différents se rapprochent. Tenez, moi et Leïla, par exemple, on n'a pas le même maillot, mais on a la même esthéticienne. Arrêtez. Cette année, avec Edouard, nous avons décidé d'emmener notre fils Jean Gonzague avec nous en Russie pour lui inculquer l'amour de la patrie. Au programme, match de l'équipe de France, visite des goulags de Sibérie. Et si on peut, on aimerait lui offrir son dépucelage avec une professionnelle russe. La Coupe du Monde, c'est l'occasion d'être tous ensemble, d'oublier un peu nos petites guéguerres, nos rancœurs, nos différences, pour leur montrer qu'on va leur marcher sur la gueule aux Australiens.
Ça, c'est demain.
Oui, et pour marquer le coup avec mon ami de la paroisse Sainte-Marie, nous avons composé cette prière afin de soutenir les joueurs hétérosexuels de l'équipe de France. Cette chanson est dédiée au football, s'il y en a qui veulent striker pendant que je parle, il n'y a pas de problème.
C'est fou.
Avant j'avais peur, j'étais pétrifiée. Je tremblais comme une feuille devant Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui j'ai changé, j'ai fini par l'accepter. La mixité, Oumtiti m'a eu comme gros minet. Je ne sais plus, je perds la tête. J'ai sorti Jésus de ma vie, mis foutique sur un crucifix. Quand l'arbitre siffle contre les bleus, je jure comme dans l'exorciste, oh c'est affreux. Ta mère suce des queues en Ligue 2, je me reconnais plus. Je bois de la bière, je fais des rêves en 4-4-2 où je chevauche Christian Jean-Pierre. Mon mari me reconnaît pas, au lit je garde mes protège tibia, protège tibia, protège tibia. Si on gagne la Coupe du Monde, j'organiserai une grande fête, me raserai le crâne aux gilettes. Par contre, si on n'est pas champion, j'appelle direct l'immigration, l'immigration. Gérard Collomb.
C'est important. Merci France Inter, merci Jean de Gauche.
Bravo Alice Muller.
Pas de... Nagui sur France Inter.
J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que si l'équipe de France cherchait
l'hymne,
voilà, sa nouvelle chanson de vestiaire, elle est top. Scotché. Bon, justement, musique, on va en reparler évidemment avec la bande originale de nos invités. Puis danse également, on va en parler dans quelques instants, suite à un livre qui s'appelle Les danses de la culture hip-hop. Et nous en parlerons tout à l'heure avec Milady Lubrano qui en qui est gestionnaire pardon, dans le domaine des finances publiques et surtout elle-même Big Girl. On va expliquer ce qu'est la Big Girl. Mais d'abord, exactement. Fin des années 80, naissance de Sabrina Ouazzani, puis il y avait ça à la maison.
Elle m'a dit d'aller souffler la rose sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue.
Zai, 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 zai.
C'est ce qu'on, c'est ce qu'on écoutait à la maison, ouais.
Ah ouais, ma maman, mais à mort, je la sens, non, elle adorait celle-là, mais... en boucle, et puis ma mère chante vraiment très 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 mal, très faux. Donc elle vraiment c'était die, 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 die. Il y a même pas de za, il y a pas de z et tout, c'est remix tout.
Mais
c'est génial, bien sûr. Ah oui, avant tout, remix, c'est une artiste, ma mère, c'est une artiste.
Votre maman, elle est auxiliaire de vie.
Oui.
Et votre papa était ouvrier dans un magasin.
Ouais.
C'est pour planter un peu le décor de la famille Ouazzani. Et vous racontez dans les interviews que vous passiez un peu tout votre temps libre à faire plein d'activités sportives qu'il y avait dans le quartier, quoi. Tout simplement.
Ah oui, c'est ça, c'était mon passe-temps plutôt que de tenir les murs, justement. Mes parents nous ont mis au sport, en plus on pensait que j'étais hyper active. On n'a pas été plus loin, on n'a pas été chercher à dire on va la camion, on va la foutre au sport.
Ouais.
Ça va être très bien, effectivement. J'ai toujours aimé ça avec mon grand frère Jamel avec qui on est et on est toujours fusionnel. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de sports de garçons.
Du rugby notamment.
Beaucoup du rugby, non. Exactement. Si. J'ai fait 5 ans de rugby, ouais.
Ah, si, elle a été en demi-finale du championnat de France avec son équipe.
Ouais, allez. Exactement.
Sérieux ?
Exactement. Je me suis fracturé la cheville.
C'est ce que j'allais dire, ils ont dû trop tourner en
mais vous étiez à quel poste ?
Talonneuse.
Talon ?
Ouais, talonneuse.
Ah bon ?
Ouais.
J'aurais pas imaginé ça en demi d'ouverture, mais talon.
Non, mais vous pesez 47 kilos, comment vous voulez faire ?
Oh, il fut un temps que j'en pesais un peu plus déjà pour commencer. J'avais dit que le plus c'est une moustache, mec.
Parce que dans l'esquive, elle était plus ronde que ça.
Ah non, mais Sabrina, elle est devenue magnifique. Mais on l'a vu grandir, Sabrina. Non, mais c'est vrai, on l'a vu grandir. Elle est passée par.
J'ai pas fait gaffe. Franchement, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas l'image de l'esquive et de Sabrina.
Parce que là, non. Elle est tellement rayonnante qu'elle a fait oublier tout le reste.
Elle est là, l'arnaque. Non, l'esquive, ça allait encore. J'avais 13 ans, j'étais menu. C'était un petit peu plus tard, effectivement. En fait, pour la graine et le mulet, 3 ans après, j'ai pris 12 kilos.
D'accord.
12 kilos pour le film, et effectivement.
Ah ouais, là, on peut être pilier.
Oui,
pilier.
Tu le vois là maintenant. Tu le vois avec les piliers à droite, à gauche. Donc, effectivement, ouais, j'ai toujours aimé faire des sports là. Je prépare un film de Mohamed Hamidi où je joue une footballeuse. Et je suis arrivée, mais je me la racontais. Je sortais tous les trucs que mon père m'avait appris. Et vraiment, c'est vrai, je passais mes week-ends ou mes vacances à aller au parc de la Courneuve avec mon frère, mon père, ma mère et ma petite sœur qui arrivait un peu plus tard, m'a fait apprendre tous les sports de garçons possibles. Et j'ai toujours aimé ça, ouais. Ouais.
Dans la même... ou alors, je suis totalement paumé.
89,
moi. Non, c'est ça,
quoi,
exactement.
C'est
la même année, 89.
Un an d'intervalle.
Naissance de Slimane. Et à la maison, on écoutait... En fait, on n'écoutait pas du tout ça à la maison, mais c'est pour le look, hein, c'est important de dire.
Non, je te jure, moi.
Non, je crois que t'as raison.
Non, mais mon père et ma mère,
t'écoutais Peter et Sloan, mais tu veux dire.
Non, je te jure, mon père et ma mère sont jeunes, ils sont vraiment très jeunes. et c'est des vraiment, ils allaient en boîte de nuit dans les années 80. Mon père, il avait la touffe et le pote d'éléphant.
J'adore.
Tu vois, genre, c'est vraiment, voilà, cette génération-là. Et j'ai grandi avec la funk et la soul, moi, chez moi.
Et vous naissez à Chelles, en Seine-et-Marne. Vous êtes aussi d'origine algérienne, tous les deux, en fait.
Ouais.
C'est aussi votre point commun à tous les deux.
Et l'Algérie, il n'est pas en Coupe du Monde de football.
On pourra pas aller faire la fête sur les Champs-Elysées.
Excusez-moi, mais l'Égypte, oui. Continuez.
Enfin, il y aura toujours un drapeau de l'Algérie.
Bien sûr,
quoi
qu'il arrive, on y est.
On s'en inquiète pas.
Quoi qu'il arrive, on y est. C'est bon, ça, c'est la meilleure de la journée. Elle est parfaite. Et donc, Slimane, vous, la musique, en fait, elle appartient pas forcément au contexte familial dès le départ, quoi. Je veux dire, le chant, c'est pas nécessairement...
Ah non, pas du tout, non. C'est moi qui arrive à un moment donné...
Vous avez une maman comme Sabrina qui chante et qui fait les paroles ou
Non, ils aiment la musique, mais ils en font pas du tout. C'est moi, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'arrive et je leur dis, écoutez, j'ai envie de chanter. Et j'ai dû chanter très très mal, mais ma mère, en bonne mère méditerranéenne, a dit, t'es le meilleur, c'est incroyable. et en fait, c'est comme ça qu'elle a fait naître chez moi cette envie folle de devenir artiste.
Et elle vous a inscrit dans une chorale, je crois.
Ouais,
Ouais, ouais, dans une chorale. Ça a été un peu les prémices.
Ouais, ce qui est drôle, c'est que ma mère m'a inscrit dans une chorale de gospel. Elle ne savait, je pense, pas très bien ce que ça voulait dire, tous les chants qu'on chantait. Mais je me retrouvais à louer le Seigneur à l'âge de 12 ans, quoi. C'était drôle.
au-delà des paroles, ça le mérite de travailler, justement. Oh, l'oreille.
Ouais, la voix. Oui, bien sûr. Et puis, les chants à plusieurs, ce qui est très important après. Au moins, on se retrouve pas. Voilà, ça apprend l'humilité aussi, le gospel.
Et votre première composition? C'était plutôt quel genre de musique?
Alors c'est là où je pense que j'avais déjà tracé quelque chose un peu, c'est que c'était une chanson qui s'appelait Je n'y suis pour rien, qui parlait du 11 septembre et tout ça. Voilà, le mec était déjà un peu
engagé,
tu sais, à 16-17 ans, allez, on y va. Ouais. Et voilà, ça parlait de ça.
C'était quel genre de mélodie? C'était quoi? C'était
musicalement avec tu me chantes un petit
c'était. Je vous le jure, je n'y suis pour rien, et toutes vos injures me font de la peine, augmentent mon chagrin. Le Dieu que je prie prône la paix, valorise la vie, enseigne le respect.
Wow.
Petite chair de poule.
Ouais, moi aussi, magnifique. Ouais.
J'aime bien les paroles, la musique j'aime pas, mais j'aime bien les paroles.
Ah tata!
Mais moi j'y connais rien en musique. Fin des années 2000. Fin des années 2000.
On va garder cette phrase.
Slimane, vous écoutez les Wiggles.
Ah ouais.
Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions.
Là, on retrouve les harmonies vocales.
Ah ouais, le texte est incroyable. Ce groupe-là est fou. J'ai découvert pendant que j'étais au conservatoire. Et ça a été le début pour moi d'aimer des chansons où les gens ne chantent pas forcément genre avec plein d'octaves, mais juste racontent des histoires. Et ça m'a bouleversé.
On est dans la fin des années 2000. Vous avez votre bac en poche. Vous intégrez une école d'art, Slimane. Mm. Et à côté, vous chantez forcément le soir, notamment à l'Orphée, je crois.
Ouais, ouais.
Pigalle.
Ah ouais, l'Orphée, c'est. Moi, j'ai fait mes armes là-bas. C'est un petit piano bar à Pigalle, caché dans un immeuble. Mm-hmm. Et j'ai vécu la nuit pendant plusieurs années. Et voilà, à chanter des heures et des heures dans un bar en fumée. Et c'est comme ça que je gagnais ma vie.
Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à devenir un artiste, un chanteur. Non, je sais pas, j'imagine qu'on est une scène ouverte. Ouais, c'est un luxe incroyable.
Ouais, c'est un luxe incroyable et en même temps on apprend vite que les gens ne sont pas forcément là pour nous écouter, qu'ils préfèrent souvent prendre un rhum coca et parler avec la fille qu'ils ont ramenée. Et le but de l'histoire, c'est ça, c'est d'essayer de capter les gens. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé pour la suite de l'histoire, c'est que j'ai appris j'ai essayé d'apprendre à capter l'intérêt des gens.
Mais à quel moment on a peur de pas gagner de quoi bouffer?
Tout le temps. Tout le temps. Moi, je suis parti de chez moi. Moi, je demandais rien à ma famille. J'avais trois boulots en même temps parce qu'on gagne pas assez, parce que je gardais des enfants. Je travaillais dans une grande marque de prêt-à-porter et je faisais tout ça en même temps. Et je travaillais la nuit aussi parce que j'arrivais pas à trouver des boulots qui étaient déclarés en cachet, parce que je pouvais pas faire mon intermittence. Et en fait, on se dit tous les jours, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et en même temps, dès qu'on essaie de faire autre chose, on n'y arrive pas. Donc c'est ça qui est particulier, mais moi j'ai eu de la chance, hein. J'ai plein d'amis à moi qui sont tout aussi, voire plus talentueux que moi, et qui n'ont pas eu la chance d'avoir la lumière sur eux au bon moment.
La chance,
il fallait la chercher, c'est vrai.
Ça démontre une force de caractère, et il faut l'avoir, cette force de caractère. Quand je dis que, là, oui, on a tous, là autour de cette table, on a tous de la chance. À quel moment on a su la saisir, à quel moment on ne l'a pas insulté aussi, cette chance?
Oui, c'est aussi ça.
Il y a le fait qu'il faille l'apprivoiser.
Ouais, c'est se dire à chaque fois qu'on est presque au bout du bout, se dire ah ben non, finalement je peux pas, faut continuer. C'est ça qui est important, c'est de pas lâcher.
C'est quoi il parle, Nagui? Il en a bavé à 20 ans d'RTL. 20 ans d'RTL avant d'arriver sur RTL. Je peux dire qu'il va rien lâcher.
Il était obligé de bosser sur la 5 en même temps.
Je vous déteste. C'est même. Et pas quant vrai. À Sabrina Ouazzani, voilà ce que vous écoutiez, vous.
Ah,
génial.
Ah, c'est pas mal, j'aurais pu la mettre aussi. Et ce
qui disent oui, on déserve les fronts, il y a ceux qui disent oui.
Ah bah Wallen,
ah ouais.
L'immense Wallen, la reine. J'adore cette chanteuse, c'est d'abord
là,
pour moi là.
Ouais, honnêtement, là, qu'est-ce, sur un titre comme ça, ce qui vous touche d'abord sont les paroles?
Ouais. Oui, ce qui me touche, c'est les paroles.
C'est les propos, quoi.
C'est les propos, ouais. C'est ce qu'elle raconte. C'est, elle prône la liberté, le droit à la liberté, à la liberté aussi. De penser, son histoire, son parcours, le fait qu'elle soit battue. Puis c'est la pionnière du R&B. Mais effectivement, elle a toujours des textes engagés. Celle qui a dit non, c'est effectivement celle qui s'est pas laissée faire, puis, qui a pas voulu rentrer dans des cases.
Ouais, puis Wallen, elle est arrivée aussi à un moment donné où personne ne racontait nos histoires. C'est et personne ne parlait de ce qu'on vivait et tout ça.
De
et,
ce qu'on était, et, de la banlieue.
Des, voilà, de la banlieue, de ces valeurs-là, de ces échecs et tout ça. Et elle est arrivée à un moment où je pense que les gens avaient besoin aussi d'entendre leur histoire
de
chanter.
De s'identifier.
Et c'est vrai que c'était la première, donc c'est pour ça qu'elle reste dans les cœurs comme ça.
Ah oui.
Et 2010, changement d'ambiance, on est dans Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois. présenté au Festival de Cannes. Ouais. Vous êtes la seule fille du tournage. Ouais. Vous arrivez au Maroc avec toute l'équipe de tournage et ouais, je pense que c'est une expérience un peu dingue aussi.
C'est une expérience dingue parce qu'effectivement déjà tourner avec Xavier Beauvois, moi ouais. C'est quelqu'un que j'admirais, bon que j'admire toujours, mais effectivement c'est là que je me dis putain Xavier Beauvois, j'y suis. Des Hommes et des Dieux, moi j'ai toujours été fan de, j'ai fait une licence d'histoire, donc ça a toujours été une de mes passions, lire l'histoire, etc. Effectivement là, qu'on parle des moines de Tibérine, de ce qui s'est passé en Algérie, mm-hmm. de tout ce mystère aussi autour de cet assassinat, de ces meurtres, effectivement c'était mêlé, faire une merveilleuse rencontre qui est celle de Xavier et moi, tourner avec des acteurs formidables, Lambert Wilson et j'en passe, et puis parler de ça, parler ouais. de quelque chose qui m'est cher, qui est important, dont on n'a pas assez parlé. Puis plus de ça, le rapport entre la France et l'Algérie a toujours été délicat, donc oui.
Et puis parler aussi de quelqu'un qui vous est cher, parce que vous montez les marches pour ce film, et vous montez les marches avec toute l'équipe, mais en particulier avec quelqu'un dans votre cœur. Mmh. C'est Yasmine Belmadi, qui était votre compagnon et qui a disparu
accident,
l'année
qui a eu
d'avant.
Un accident voilà. de scooter, oui.
Et vous l'emmenez avec vous, en fait, à Cannes.
Ouais, je l'ai emmené avec moi et, parce que c'était une personne humainement extraordinaire, déjà. Mais c'était aussi un immense acteur qui méritait 112 fois de monter les marches de Cannes. Et puis on avait fait un film qui s'appelait Adieu Gary, pour lequel on avait été à la semaine de la critique, et moi je pouvais pas y aller. J'étais en tournage, et il avait dit sans toi j'y vais pas. Parce qu'on a un duo qu'on s'est beaucoup apporté pendant ce tournage d'Adieu Gary, et j'ai envie d'y aller avec toi, et moi j'ai dit ok bah j'irai pas sans toi. Donc la prochaine fois que j'y suis allé, il pouvait pas m'accompagner par la présence physiquement, mais il était là effectivement avec moi dans le cœur, et j'avais envie aussi de lui rendre hommage. Ouais.
En 2016-2018, Slimane, vous écoutiez...
Il est où le bonheur, il est où...
Sérieux?
Ça va, Daniel?
Ah.
Coucou.
C'est la chanson préférée à Daniel.
C'est vrai?
Ça va?
Mais non, c'est pas vrai.
Ah, c'est le contraire.
Il le vanne, il le vanne tout le temps. Il le vanne tout le temps. Il le vanne tout le temps, et je l'ai emmené dans un taratata où Christophe Maé a retourné le public. Je lui ai dit, il faut que tu vois Christophe Maé.
Il est incroyable, Christophe.
Avec son rapport avec le public.
Ah ouais.
Et
ouais.
Il retourne même ceux qui arrivent en disant j'aime pas Christophe Maé ne peuvent pas être convaincus insensibles.
Parce que c'est un vrai artiste, c'est un vrai monsieur. Moi j'ai rencontré le soir de ma finale
The Voice
et il m'a beaucoup apporté. Il a chanté cette chanson là pour la première fois en télé et ça voulait tout dire quoi. Moi je venais de galérer pendant 10 ans et arriver à gagner The Voice avec un album à la clé. Je regarde à ma droite, je vois mes parents, et je regarde en face de moi, il y a Christophe Maé qui me dit il est où le bonheur Slimane? Bah, il était là.
Ah bah voilà, pour vous ça avait un sens. Moi j'ai pas trouvé le bonheur, donc quand il le chante.
C'est vrai que vous aviez refusé de faire The Voice avant.
Ouais, on m'a appelé de la première à la cinquième et j'ai dit non à chaque fois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai dit non parce que j'avais peur, je me sentais pas prêt.
Et vous y allez ensuite quand même, parce qu'il y a un déclic, vous dites ça y est, maintenant c'est mon heure.
C'est le vrai déclic, c'est la chanson, c'est la fleur de toi en fait. Je la chantais depuis quelques mois dans le bar et je voyais que c'était pas comme toutes les autres chansons. Je voyais qu'il se passait quelque chose à chaque fois que je la chantais et je me suis dit j'ai quelque chose.
Sublime.
J'ai changé d'adresse de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si.
Pourtant, dans The Voice, c'est un concours, un télécrochet qu'avec des reprises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer ce que l'on chante.
Oui, mais justement, en fait, avec cette chanson-là, j'avais l'impression, c'était comme si je ramenais ma chanson, en fait. Je l'avais tellement trimballée avec moi pendant des mois et des mois, je me l'étais tellement appropriée que c'est comme si je suis arrivé, en fait, le premier soir et j'ai dit, ben, tenez, mon premier single, c'est ça. En fait, c'était presque ça, finalement. Et j'ai essayé, surtout, à chaque fois, de, quelle que soit la reprise que je devais chanter, de me dire, ben, est-ce que ça, t'aurais pu le mettre dans ton album? Et j'ai avancé comme ça, en fait.
Quant à vous, Sabrina, vous écoutiez Creep.
But I'm a creep. Ouais, c'est qui là?
On est loin de Radiohead. Hein.
Ouais, grave. Mais j'adore la version originale de Radiohead, bien sûr. Et celle-là me motive bien le matin.
Et bizarre. Vous, Sabrina, c'est le passage à la réalisation, votre premier court-métrage, ouais. On va manquer, que j'ai eu la chance de voir, qui a été présenté cette année au Festival de Cannes. Ouais. Laïd El Kabir, une famille réunie et attend la belle-mère qui vient d'Algérie. Donc on essaie de mettre les petits plats dans les grands pour l'accueillir comme il faut, sans quoi ça va être des histoires à n'en plus finir. Et c'est la cellule familiale qui explose et en même temps qui se recompose parce qu'elle est constituée de la même chose, de cette même vitalité, quoi.
Ouais. Ah ouais, je suis contente. Pardon, mais parce que
j'ai beaucoup aimé l'interview.
Je ne peux pas répondre à l'interview parce que je suis émue de ce que tu me dis. Je suis très contente. Tu l'as tellement bien décrit.
Ouais, et j'ai beaucoup
aimé. C'est
vrai,
c'est ça. Ouais. C'était effectivement, oui, cette famille qui s'apprête à accueillir donc cette grand-mère et j'avais envie de parler du poids du regard de l'autre parce que au quotidien c'est ce qui nous guide finalement encore plus dans la société dans laquelle on vit. On a envie de plaire, on a envie d'être aimé, on se contemple dans l'œil de l'autre finalement et je voulais pousser à son paroxysme cette chose-là en se disant on est prêt à quoi pour être aimé finalement. On est prêt à se changer, à devenir quelqu'un d'autre, à se travestir parfois, à faire croire des choses qui sont totalement fausses.
La mascarade, ouais.
Cette mascarade qui se met en place, mais qui, dans la vie au quotidien, part de toutes petites choses. Quand les gens viennent chez nous, forcément, on range encore mieux. Ouais. Les coussins, ils sont posés, tu sais. Et on dirait qu'on est chez Ikea, qu'on est en déco, c'est n'importe quoi, tu vois. Parce qu'on a envie de plaire, alors que tout le monde, c'est le bordel à un moment ou à un autre. Et bah là, c'est à quel point on a envie, effectivement, d'être parfait, et puis effectivement, de parler forcément de ce choc de génération entre cette maman et ses enfants, ce qu'elle leur demande et ce à quoi ils sont prêts pour lui plaire à elle aussi finalement, à cette maman.
C'est des familles mixtes aussi,
ouais.
c'est montrer ce mélange constant.
Ouais, montrer ce mélange constant, montrer à quel point aussi, effectivement, c'est l'Aïd, pour le coup, c'est une fête de partage où on accueille les gens, où on apprend parfois des nouvelles personnes, on apprend à se connaître, là, pour le coup, avec ce personnage de Vanessa, interprété par Claire Schust. J'avais envie de parler de tout ça, effectivement, de la mixité, du choc des générations, du choc des cultures et du poids du regard de l'autre. Ouais,
bravo.
Merci.
Retour à Break, donc le film sort le 18 juillet.
J'aime bien, tu le dis en américain, Break.
Tu veux dire quoi? Break.
Non, mais Break. Moi, j'aurais dit Break. Toi, tu fais Break.
Ok, Break.
Non, j'aime bien, je préfère.
Avec, je dis Milady ou Milady? Milady Lubrano qui signe les danses de la culture hip-hop. Je me demandais comment est né le hip-hop. Il y a une adresse, un lieu, une date de la naissance du hip-hop?
Alors oui. Alors moi, je parle plutôt de la culture hip-hop.
Ouais.
Donc la culture hip-hop donc, est née aux États-Unis, dans la ville de New York et plus précisément dans le Bronx. J'ai même une adresse à vous communiquer si vous voulez aller voir. Vous pouvez. C'est le 1520 Sedgwick Avenue.
Et il s'est passé quoi là-bas? Et qui d'abord est descendu dans la rue ou dans une cour intérieure pour avoir ces mouvements qui sont à la fois, comme on le disait tout à l'heure, sportifs, mais en rythme.
Mais en même temps, très artistique.
Exactement.
Alors, en fait, donc, à cette adresse, il y a eu une fête organisée par un DJ qui s'appelle DJ Kool Herc, en l'honneur de l'anniversaire de sa sœur Cindy. Et donc, cette fête qui a eu lieu le 11 août 1973 point de départ de la culture hip-hop. Donc, dans la culture hip-hop, on retrouve le DJing, le rap, le graffiti et le breakdance, le breaking.
D'accord. Voilà. Il n'y a pas les vêtements?
Ça vient plus tard. Après, il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Mais à la base, dans la culture hip-hop, Il y a vraiment ces quatre piliers.
Et comment c'est arrivé en France alors, entre août 73 et hier, la date d'arrivée du hip-hop en France, c'est arrivé par Sydney, c'est HIP, HOP.
Voilà, donc il y a effectivement cette émission qui
était sur TF1 le dimanche midi, si j'ai pas
voilà, ah ouais, qui a fortement midi. Contribué à la diffusion du hip-hop en France. Et puis il y a des pionniers américains, notamment en danse, qui ont fait des tournées un petit peu partout dans le monde, et notamment en France et à Paris. Je pense notamment aux Electric Boogaloos. Et par exemple, un danseur de breaking qui s'appelle Crazy Leg, qui a fait partie aussi de ces tournées, qui est toujours actif aujourd'hui.
Ça s'appelle breaking parce que justement, ce sont des mouvements qui sont à la fois cassés et à la fois, j'allais dire, voluptueux. Je ne sais pas quelle expression employer. C'est à la fois très souple et ça peut saccadé. Être aussi saccadé.
Oui.
Alors
c'est
d'un
quoi
côté,
l'origine
oui.
du mot break.
Alors il y a aussi le fait que en fait les danseurs de breaking attendaient le break de la musique, c'est-à-dire le refrain, on va dire
la rupture musicale.
Voilà, la rupture musicale pour danser. Donc on les a appelés les b-boy break boy. Voilà,
d'accord.
C'est une des hypothèses. Après, il y a plusieurs hypothèses.
Mais alors, quand, c'est voilà. ça. Quand il y a un break dans un morceau, c'est soit un changement de tempo, soit la batterie seule ou le tempo seul qui reste avant que les
et
autres
les danseurs,
instruments se
remettent à jouer. Les danseurs, à la base, attendaient ce moment pour danser.
Pour agir.
Donc, on les appelait les b-boys et les b-boys.
J'ai, depuis le début, employé le mot de sport à propos de cette danse. C'est évidemment que c'est une danse, évidemment que ça peut même faire penser par moments à la danse moderne de Caroline Carlson ou de Pina Bausch. Est-ce que ce sont des... c'est un sport, c'est un art.
Performance.
Ouais. Un art. Alors, pour moi, c'est clairement un art. Puisque on est en lien, mais un lien très fort avec la musique, c'est plus que de la performance. Moi, j'aime pas trop ce mot. Je dirais plutôt un défi avec nous-mêmes, un défi avec la musique.
L'expression.
Ouais, l'expression
corporelle.
Produire effectivement des chorégraphies.
C'est
ça la différence avec des bons danseurs et des bons b-boys ou b-girls, c'est que effectivement, ils sont là aussi pour transmettre à travers la danse, à travers les mouvements.
C'est le principe de la danse. En règle générale,
c'est un art, c'est pas une discipline.
C'est plutôt un monde macho ou c'est 50-50?
Alors, le breaking, c'est plutôt un monde masculin, on va dire, mais pas macho.
On respecte les femmes qui viennent dans ce milieu-là.
On respecte les femmes. Alors, au premier abord, quand on arrive et qu'on est une femme. On va dire on est un petit peu testé, mais si on montre qu'on est là pour danser et pas pour draguer,
voilà.
Finalement
il faut appeler un changeur.
et ben on est respecté et on fait partie de la famille.
On va pas se mentir.
C'est pas le jour.
La société est macho, donc il y a pas de raison que les autres univers ne le soient pas.
Exactement.
Aussi par contagion. Donc,
et l'influence de Benny B alors
Oui, les danses de la culture hip hop, c'est publié chez L'Armatan. Je ne l'ai pas dit, et pardon, vous êtes titulaire d'un master professionnel en droit, économie et gestion de l'Université de Savoie, gestionnaire dans le domaine des finances publiques, et vous êtes vous-même Big Girl, 15 ans dans le milieu et 4 ans de formation, enseignement des danses du hip-hop Big Girl, Milady.
Voilà.
Et vous signez donc...
À l'école de danse Takamove.
Voilà, qui est dit, et ça s'appelle Les danses de la culture hip-hop. Merci d'être venu apporter votre éclairage, et puis surtout, moi j'ai appris plein de choses sur la naissance de ce hip-hop. Tanguy, ça va, Tanguy?
Oui, ça va, et
vous êtes là.
Eurosato
Satori, c'est ça?
Oui,
le salon de l'armement, c'est quoi?
Le salon de l'armement, oui.
D'accord.
Il ferme ses portes ce soir, hein, plus que quelques heures pour voir.
Excusez-moi, j'étais pas au courant.
Voilà, pour voir l'ensemble des moyens mis en place pour tuer l'autre, un char, drone, gens qui portent des crocs et qui font qu'en face l'ennemi déprimé se donne la mort. Il y a même, c'est la nouveauté 2018, plein de robots tueurs. C'est comme un robot extracteur de jus, sauf que l'orange, c'est vous.
Très bien, on en parle dans la dernière demi-heure avec Sabrina Ouazani et Slimane qui sont nos invités. C'est la bande originale avec Léa Kadobudadi, Alison Wheeler, Tanguy Bassuro, Daniel Morin,
salut.
Tom Lila.
Bonjour.
Et nos invités Sabrina Ouazani et Slimane.
Oui.
Oui. à l'affiche de Break. Ouais. Je fais attention maintenant à la manière dont je le dis. Okay. À l'affiche de Break, ça sort le 18 juillet prochain. Oui, c'est un film avec de la danse, mais pas que. C'est une histoire, à la fois une histoire d'amour, à la fois une histoire de quête personnelle, une histoire de dépassement de soi, une histoire aussi de réinsertion. Il y a vraiment tous les degrés possibles et imaginables. D'ailleurs, quand vous avez reçu le scénario l'une et l'autre la première fois, Sabrina, vous vous êtes dit, c'est un film sur la danse, c'est un film sur justement la quête de ce que l'on veut, la vie d'une passion.
Bah, effectivement, avant de le lire, quand on m'a présenté, quand Marc Fouchard m'a présenté le film, je me suis dit, oui, c'est un film de danse. Et puis finalement, j'étais agréablement surprise parce que effectivement, il y a de la danse, mais il y a aussi du fond. Vraiment, et cette jeune fille qui, oui, va à la recherche de son identité et de son papa et qui va essayer de mettre un coup dans la fourmilière et de se bouger et d'avancer. Donc, pour avancer, il faut qu'elle apprenne aussi à se connaître et qu'elle sache de là où elle vient, quoi, vraiment.
Et ça passe par quitter le confort bourgeois. Exactement. Et aller se mettre en danger ailleurs.
Ouais, ouais.
Et ce côté, alors, la bonne conscience des autres, ou en tout cas le moteur de la conscience des autres, Slimane, comme premier rôle. D'abord, vous êtes retrouvé, vous, là-dedans ? Vous êtes ce genre de mec dans la vie ?
Je peux l'être.
Vous êtes en rôle de composition totale, vous êtes un vrai salaud dans la vie. Et au cinéma, vous êtes un gentil.
Non, je peux l'être. Et c'est ce qui m'a plu surtout chez Malick, c'est sa lumière. J'avais envie aussi d'incarner ce genre de rôle, sachant que la plupart de mes chansons sont complètement dépressives. Je me suis dit que c'était important. Je me suis dit que c'était important qu'au cinéma, on me voit sourire un petit peu.
Du mal à vous reconnaître parce que vous êtes tellement souriant, on dit non, c'est pas lui.
C'est ça. Je parais presque sympa.
On déconne non plus.
Non, mais plus sérieusement, c'était le challenge en fait qui m'a plu pour ce rôle-là. C'était de me dire qu'il y avait la chaise, c'était de me dire que voilà, fallait être lumineux, fallait être celui qui est aussi essaie de donner la main aux autres. Et puis je ne mens pas, le fait qu'il y ait Sabrina dans le film. En fait, on se connaissait avant. Et ce qui est drôle, c'est que mon premier rendez-vous avec Marc Fouchard, il me parle de lui. Donc du personnage de Sabrina, et je lui dis, tu sais, parce que moi j'étais au courant de rien, je connaissais pas ce milieu, je dis, tu sais, faut absolument que tu rencontres une amie à moi, elle s'appelle Sabrina, et en fait elle était déjà castée pour le rôle et je savais pas encore.
Mais vous êtes pas depuis quand?
Non, on s'est rencontrés pas très longtemps après The Voice, on s'est vraiment apprécié cœur, et quand il m'a dit qu'il y avait elle, c'est vrai, ça m'a rassuré. Moi j'avais peur pour ce premier film et ça m'a vraiment aidé qu'elle soit avec moi.
Vous avez tout à l'heure parlé des années de galère avant d'être dans la lumière et de pouvoir vivre de votre art et récolter les fruits justement de toutes ces années d'efforts et de sacrifices. Est-ce que à l'inverse, The Voice peut devenir une espèce de casserole où il n'y a pas une interview, là je l'ai vu déjà pour la sortie du film, il n'y a pas une interview où c'est premier film, Slimane, alors après The Voice, machin, et même nous ici on en a parlé, parce que évidemment on resitue encore plus pour l'auditeur le contexte de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Sauf que votre vie, elle ne démarre pas à The Voice, elle a démarré bien avant, c'est ce qu'on a voulu prouver et raconter à ce micro.
Ouais, mais en même temps, ça me dérange pas parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens, je crois, qui ont la chance de savoir, et en plus de l'avoir en image, à quel moment leur vie a basculé. Moi, je peux revoir, en tapant Slimane The Voice sur Internet, le moment où ma vie, elle a changé. Du jour au lendemain.
Clairement,
il y a un avant et un après. Il y a des rêves qui se réalisent. Il y a pouvoir aider ma famille. Ce moment-là, il veut dire tellement plein d'autres choses que juste chanter une chanson, qu'on en reparle. Moi, ça me fait plaisir. C'est le moment où un gamin a pu réaliser son rêve. On parle tellement des gamins qui font n'importe quoi. Je me dis que c'est important de raconter que ça aussi, c'est possible. Et donc, non, ça me dérange pas. Si c'est une casserole, c'est une casserole où on fait la meilleure
des confitures.
Des confitures. donc, tant mieux. Et puis, je crois qu'on a besoin de vraiment. Moi, quand j'étais jeune, j'avais besoin de belles histoires. C'est ça qui m'a manqué. Et si je peut être la belle histoire de juste une personne, moi ça me va, alors si on peut la raconter souvent, on y va.
Non, vous avez raison, non seulement il ne faut pas insulter l'avenir et les chances et les opportunités, mais il ne faut pas renier non plus les racines, quelles qu'elles soient. Et il y a trop de personnes qui, et il y a même des chanteurs d'ailleurs qui en concert ne veulent plus chanter certains de leur succès en disant non, ça va, ça me saoule, je ne vais pas chanter toujours la même chanson. Ouais. Il ne faut pas non plus oublier l'amour qu'a eu le public pour une chanson, pour un artiste.
C'est des rencontres, il ne faut pas passer à côté. Faut pas
les oublier. Donc non, je suis très fier. Et puis je crois que tout doucement, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'installer avec The Voice où, au début, c'était bien gentil. Il y en avait un, il y en avait deux. Maintenant, si on regarde la scène musicale, on vient tous pratiquement de The Voice ou d'autres émissions de télé.
Y compris ceux qui n'ont pas gagné.
Ouais, c'est ça. Et en plus d'être des vendeurs de disques, beaucoup sont très qualitatifs. Et je pense à des Julien Doré, je pense à tout ça, où tous ces gens-là viennent de ce genre d'émission. Et ça fait partie du paysage. Donc,
vous avez été décroché. Il y a un groupe, par exemple, qui était une espèce de boys band à l'époque, qui avait fait un télécrochet, un radiocrochet, qui n'avait pas gagné d'ailleurs. Il s'appelait les Beatles. Donc, ils avaient fait un concours de chant à la radio. Là, ouais. Ils n'avaient pas gagné, mais ça a toujours existé.
Oui.
Après, le seul truc que l'on pouvait reprocher à certaines émissions, c'est de s'intéresser plus aux coucheries et aux douches qu'au travail et au chant.
Dans The Voice, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne nous voit pas nous brosser les dents.
C'est ça. Tu
vois, on chante.
Comment on fabrique aussi des stars. Ça peut aussi poser une question sur l'émergence des pratiques artistiques des autres aussi, qui peut-être n'existent plus aussi parce qu'il y a beaucoup de télécrochés et un passage télé.
Je crois que ça c'est...
Il n'y en a plus tant que ça maintenant, il n'y en a plus qu'un.
Et puis en plus, pour être très sincère, moi je viens vraiment, alors même si j'ai fait The Voice, je viens vraiment du milieu... entre guillemets, underground de la musique à parisienne, où j'ai fait toutes les scènes ouvertes du monde, tous les bars de soul, de funk, de tout ça. Et en fait, à un moment donné, c'est aussi ces seuls endroits-là où on peut nous frapper. Parce que quand tu connais personne qui travaille chez Universal, quand tu connais personne qui travaille à la radio, quand t'as pas assez d'argent pour te payer tes séances de studio, et parce qu'Internet, c'est bien mignon, mais maintenant, on est 120 000 sur Internet à mettre nos vidéos sur YouTube. Et ben, en fait, le seul endroit où tu peux frapper, finalement, et où on t'ouvre un peu la porte, c'est celui-là.
Est-ce que le milieu underground parisien a trouvé que vous reniez un tout petit peu les origines en allant chanter de la variété à la télé?
Je pense qu'il y a certaines de mes chansons qu'ils n'ont pas aimées. Ils se sont dit, putain, Slimane, il chantait mieux avant. Mais à côté de ça, moi, je peux faire mon Zénith de Paris et aller tout de suite après faire mon after dans le piano bar où je travaillais avant et chanter en piano voix avec un coup dans le nez. Donc, tu vois, ils se disent surtout que je crois que j'ai pas trop changé. Et c'est important, moi, je me nourris de ça. Je vais tout le temps dans les endroits où j'allais avant aussi pour me faire plaisir et pas oublier.
Suite à un grave accident, votre personnage, donc Lucie, jouée par Sabrina Ouazzani, voit à la fois son dos, son visage brisé, mais peut-être ses rêves, peut-être sa carrière. Et en fait, ça va être une renaissance totale. Certains accidents peuvent faire du bien.
Ouais, finalement, c'est vrai. Je pense que
ça remet les choses en place.
Ça remet les choses en place, et puis la rencontre avec Vincent va être aussi déterminante de voir qu'effectivement, et par le personnage de Malik qui lui ne peut plus danser parce qu'il a plus l'usage de ses jambes, et parce que Vincent est pétri de culpabilité parce qu'il est quand même lié au fait que Malik soit sur cette chaise roulante, et alors qu'il est si talentueux, si bon danseur, il y a un moment où elle va dire moi j'en ai les capacités, pourquoi pas y aller, pourquoi pas essayer. Et puis, elle se construit aussi petit à petit.
Le déménagement se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous partez de la banlieue, du Paris bourgeois pour aller dans la banlieue.
Ouais. Pour découvrir la banlieue, pour découvrir finalement cette partie d'elle qu'elle ne connaissait par son papa, mais aussi elle va apprendre à connaître les codes, certes, du breakdance, mais aussi effectivement de la banlieue, de cette culture, de tous ces principes et ces valeurs finalement aussi qu'on nous inculque par la vie, par de là où on a grandi aussi, au-delà des parents et des gens qui nous entourent. Et donc effectivement, elle va découvrir tout ça.
Break sort le 18 juillet. Il est temps de maltraiter l'info avec Tanguy Pastureau.
Oh, oui.
Tanguy, je rêve d'un monde en paix, dans lequel les hommes se comprennent.
Oui, mais ça n'arrivera pas, Nagui. Pour une raison simple, qui est que chaque peuple, chaque ethnie, chaque groupe religieux est persuadé d'être meilleur que celui d'à côté. Nous, Français, méprisons les Belges, qui détestent les Hollandais, qui exècrent les Polonais, qui aimeraient que crèvent les Allemands, et tous ensemble, on hait les Roumains. À part John Lennon défoncé à force de sniffer Yoko qui était bourré d'héroïne, personne n'a jamais cru à la paix, parce qu'on a le conflit dans le sang. Quand on tape un véhicule sur la route, on sort pas de sa voiture en disant « Pardon, monsieur, vous m'avez grillé la priorité, mais il y a pire dans la vie, comme la malaria ou la chanson de Cyril Hanouna pour le mondial de foot. Non, en 6 secondes, on passe du teint d'Amélie Nothomb à celui de Gérard Larcher quand il retient un renvoi gastrique, et on se met à hurler à l'autre de rejoindre sa mère au bois de Boulogne, laquelle a terminé à l'urine dans les toilettes du Formule 1 de la Porte de Vanves, avec un teckel atteint d'MST. Et encore nous, on n'a pas d'armes. Ou alors il faut aller en banlieue, avoir les contacts. Moi je sais déjà pas comment acheter de la drogue, parce que j'ose pas demander à Daniel Morin. Mais les Américains, par exemple, 1-0 en maths, le gosse prend la calage de papa, descend les profs, et là Trump dit un truc comme « ouais, c'est triste ». Puis il se redresse et ajoute « mais bon, c'est tellement cool d'avoir une grosse mitraillette entre les pattes. Kim Jong-un en a une énorme, il me l'a montré depuis je ne pense qu'à ça, il me fait rêver le mini-pouce ». Et parfois, cette violence se pratique entre États, hein, pour un bout de territoire ou 4 barils de pétrole. Et dans ce cas, bah, il faut avoir des armes. Hein, on se tire dessus, BHL passe avec une chemise nickel, lui il peut vous trouver le seul pressing qui reste à Alep. Puis, après qu'on a fait 200 000 morts, on se dit « c'est trop con, on va rater la fin de Game of Thrones ». Donc on se réconcilie. Chaque année à Paris se tient donc le salon Euro Satori, le salon de l'armement, interdit aux parkinsoniens et aux gens qui ont le hockey, parce que tout de suite on peut tuer 14 personnes. Et l'édition 2018, qui a lieu jusqu'à ce soir, présente plein de nouveautés en matière d'armes. On va les éclater, ces enfoirés. On ne sait pas encore qui, mais on trouvera. Alors, on a vu l'EMBT, hein, le futur char franco-allemand, qui a été moulé sur le corps d'Angela Merkel et disposera du sens du consensus de Macron, c'est-à-dire qu'il foncera dans le tas en hurlant « Banzai ». On y a vu une fausserie en titane. Hein, c'est véridique, vous la mettez dans l'eau, elle nage. Vous dites « oh, regarde bébé, un poisson dans la mer, ça change des poches plastiques ». Mais l'arrêt est bourré d'explosifs. Et vous pète à la tête, Thalassa, ça va devenir l'émission la plus risquée à faire.
Autre nouveauté au Salon de la Défense ?
Eh bien, il y a un drone chauve-souris hein, qui se déplace comme la bestiole et vous filme. Jackie et Michel en ont acheté un et avec, ils survolent les fourrés dans les Landes afin de filmer des couples d'Allemands. Il y a aussi des nanodrones, petits comme des insectes et qui se déplacent en essaim. Bref, un animal sur deux, c'est un drone. Hein. Le refuge de la SPA aujourd'hui, c'est un repère de geeks. Et quand Michel Houellebecq secoue ses cheveux, il y a plein de mini-drones qui tombent. Mais la grande nouveauté, ce sont les robots tueurs. Et ça, c'est génial. Parce que ce qui nous retient de tuer, c'est notre part d'humanité. On se dit, si ça se trouve, le mec en face de moi a la même vie. Il écoute la bande originale en se disant que c'est un bon mélange de culture et de déconne. Hein, je peux pas le trucider. Mais le robot, lui, il tire dans le tas et ensuite on le branche hein, pour qu'il se recharge comme un iPad, en fait. Sauf qu'on ne peut pas s'en servir pour taper sur Google Ingrid Chauvin nue ou d'autres choses hein, comme fesses de Kim Kardashian. Ainsi, Samsung a lancé le SGRA1, un robot soldat déjà posté à la frontière entre les deux Corées. Alors, il est capable de détecter des cibles, hein, comme Trump revenant d'une soirée mousse à Pyongyang, et de tirer. Alors, dans le cas de Trump, pas de danger, puisque la balle viendrait s'emmêler dans ses cheveux, hein, qui l'arrêterait avant impact sur le crâne. Il y a aussi l'Uran 9, un char russe autonome, sans personne dedans, qui avance sans réfléchir, comme chez nous, Édouard Philippe, quand Macron lui donne un ordre, mais solide, hein, parce que Philippe est tout en longueur. Ce week-end, il chillait en slip dans son jardin, sa femme a hurlé « punaise, un ver géant ». La Russie a même créé un robot kamikaze. Ça, c'est comme en Irak. Hein. Il déboule sur un marché, il dit « Bonjour, je voudrais des tomates ». Et là, ça fume et il crie « Allez vous faire foutre, fils de chien !» Ah ! Et explose. Le souci, c'est que l'intelligence artificielle en est à ses prémices, comme l'intelligence tout court. Et que ces robots sont incapables de distinguer un cas particulier. Si un type avance avec un drapeau blanc, pour peu qu'il ait été assemblé à Paris, il peut se dire « La vie de ma mère, ça doit être un drapeau de l'OM » et il tire. Hein. Autre problème, ces boîtes-là, comme ça, Samsung ont d'autres activités, la téléphonie. Donc on achète un 06 en se disant je vais voir des vidéos de chats et pendant ce temps-là, avec le brosouf généré, l'entreprise fabrique des robots tueurs qui vont nous éclater. Alors d'ici 20 ans, il n'y aura plus que des robots qui tueront. Hein. Filer 2000 euros à un Tchétchène en lui disant mon mari sort le matin à 8h30 ne servira plus à rien. Et comme un jour, ils nous dépasseront en intelligence parce qu'eux ne regardent pas Energy 12, eh ben, on est cuit. Ils vont se liguer contre nous et nous éradiquer. Bref, au lieu de faire des robots qui tuent, faisons des robots qui font l'amour. Là, en général, moins on réfléchit, mieux ça se passe. Make love, not war, comme disait John Lennon quand il était défoncé.
Merci, Tanguy Monsieur. La bande originale,
sur
France Inter.
Break, j'ai pas précisé que c'était un film visible par toutes et par tous, parce qu'il n'y a pas de scènes qui sont choquantes, ni en termes de violence, ni en termes de...
Kevin Michel torse nu, c'est choquant.
Sexualité. Et ça peut au contraire donner, faire naître peut-être des vocations, et puis faire passer ce...
Alison, grosse vocation, là.
Grosse vocation. Faire passer ce message que, malgré les échecs, c'est ce qu'on disait, hein, Sabrina Ouazzani, dans ce film, dans Break, je le rappelle, le 18 juillet, malgré les échecs, les blessures, on ne doit pas s'arrêter quand on a des rêves. Il faut se battre, Daniel Morin, il faut se réinventer, il faut jamais rien lâcher. C'est quand même la leçon.
Le salaud, le vicieux, le délinquant, l'escroc, l'animateur télé. Vous allez finir par me tuer, monsieur Guy, avec toutes vos banalités.
C'est vrai.
Mais comment faites-vous avec un aussi petit corps pour sortir autant d'eau tiède? C'est incroyable. Et pourtant, j'en ai connu des incultes, Fred Lopez, des gens qui manquaient de courage, Stéphane Bern, des animaux, André Manoukian, et même des femmes, Isabelle Giordano. Mais là, ça dépasse les prévisions, les espérances, ça remet en question toute la théorie de l'évolution de l'espèce. Franchement, si nos auditeurs issus de tout l'espace francophone n'avaient pas appelé pour réclamer ma présence autour de cette table,
tu parles.
Je ne serais plus là. Je serais parti du studio, de Paris, de la France, pour aller me défoncer à Montevideo en fumant des pétards à la croûte de camembert avec Augustin Trapenard et Laure Adler. Mais bon... puisque c'est inscrit dans mon contrat, et que contrairement à vous, je suis un bon chrétien qui aime son prochain, eh bien, je vais répondre. Alors, les blessures, gna gna gna, les échecs, gna gna gna, se battre, nanana, les rêves, nanana, n'ont rien lâché, quelle purge! Alors même si oui, monsieur Guy, je le reconnais, et pour partager avec vous l'amour de la danse,
c'est
vrai que vous êtes gaulé comme un danseur, vous êtes fluide comme un entrechat, vous scintillez comme une étoile, mais vous êtes con comme un tutu. Les échecs, les blessures, les chroniques satanistes d'Alison Wheeler sont là uniquement pour nous détruire, nous rappeler que nous sommes des êtres friables, de vraie merde. Et si ça brise des rêves, eh ben tant mieux. Ça le fait pas, ça le fait pas. Faut lâcher l'affaire, mettre son rêve à la poubelle et prendre le chemin de Pôle emploi. Y a pas de honte à être réaliste. Désolé, mais une fois de plus, monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi.
C'est merci, cela. Daniel Morin. C'est honteux.
Avec Nagui.
Alors Sabrina Ouazzani, il y a donc ce Break qui sortira le 18 juillet, mais vous êtes actuellement à l'affiche de Demi-sœur. On en avait beaucoup parlé à ce micro avec vos camarades de jeu, Charlotte Gabriz et Alice...
Gabriz et Alice David.
Ouais.
Et Barbara Probst, et
ah
tout
oui,
ça.
Ouais.
Voilà. Le fatigué, film de Safia Azdin et François-Régis Jeanne. Ouais. Vous êtes également à l'affiche de Taxi 5, on vous voit partout, de Franck Gastambide. Ouais. 3 millions plus de 3 millions et demi de spectateurs.
Exactement.
Carton plein. Vous venez d'achever une série qui s'appelle Can't Buy Me Love.
Ouais, vous avec Titan Auré et Joséphine Drey, ça a été, c'est ma première série pour Netflix, en plus de ça. Et non, on s'est éclaté, histoire de nana, un peu de Friends, un peu de Sex and the City. On verra ce que ça donne, mais non, c'est bien amusé. Puis le trio, là, on s'est adoré, ouais, vraiment.
Et vous avez commencé le 16 juin prochain, c'est-à-dire là, ce week-end, ouais. Les Footeuses.
Ouais, c'est ça, film de Mohamed Hamidi.
Dont vous parliez tout à l'heure avec Kad Merad.
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Salette, Laure Calamy et j'en passe. Et je suis très très contente parce que finalement, je retrouve Mohamed Hamidi, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'avais aimé Né quelque part, j'avais aimé La Vache, vraiment. J'ai eu la chance de tourner un premier film avec lui en début d'année. Un film qui s'appelle Grand Paris avec Gilles Lellouche. Et là, c'est mon deuxième cette année, on se lâche pas. Et je suis ravie parce que il est fort, intelligent et talentueux. Que demande le peuple.
N'arrêtez pas. Territoire ensuite avec Reda Kateb.
Et Mathias Schoenaert.
Reda Kateb, Mathias Schoenaert.
Team de David Olofen. Ouais. Alors, j'étais gâtée.
Alors, on refuse rien.
Totalement.
Et vous retrouvez Gilles Lellouche dans Zone Franche?
C'est ça.
Ok, ça n'arrête pas. De votre côté, Slimane, il y a un deuxième album qui s'appelle Solune.
Ouais.
Le premier est déjà platine. Enfin,
Premier, il est double platine.
Ouais. Double platine.
Ouais, mais ça veut rien dire.
Si, ça veut dire que les gens ont aimé ou acheté. Non,
non mais c'est surtout quand tu dis platine et tout, quand je dis ça veut rien dire, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce que ça représente.
Qu'est-ce que ça représente, alors dis-nous.
Bon, en gros, c'est que ça va bien.
Et puis Solune mélange soleil et de lune. Et avec cet album et évidemment les succès incontournables du premier album, en tournée cet été
Ouais, cet été, c'est les festivals et à la rentrée, on repart sur la tournée des Zéniths.
Fouenant, le 7 juillet, le 18, vous serez au festival de poupées.
Ouais.
C'est un festival de poupées ou
c'est à Saint-Malo, c'est... non, c'est poupées PET.
C'est un gros festival qui, ouais, est, oui, qui est pas mal.
Ouais. À Saint-Malo, le 3 août. Le 3 août, au Nuit 2 de Fréjus. Le 8 août, au Lounge Music Festival OG. Et puis vous serez le, en septembre, pardon, à Chalon-sur-Saône. Puis en octobre, à Nantes, Caen, Strasbourg, Amiens, Toulouse. Et puis le 20 novembre, à l'Olympia.
Ouais. Et moi, je l'ai vu sur scène. Pardon.
Ah, vas-y, vas-y.
Puis du coup, c'est réponse, on lui dit quelque chose. Non, je voulais juste dire que je l'avais vu sur scène plusieurs fois pour le coup et que à chaque fois je l'ai redécouvert, à chaque fois j'étais surprise, à chaque fois j'ai été hypnotisée par son talent, par sa présence, mais vraiment sincèrement c'est pas un discours de pour faire bien parce qu'on fait un film ensemble etc, c'est un artiste exceptionnel et puis un mec mortel dans la vie, ça c'est clair, mais vous le regretterez pas sur scène.
Je vais faire toutes mes promos avec toi, tu parles mieux que moi.
Non, qui est généreux et qui accepte le partage, parce c'est très agréable.
C'est vrai,
les artistes et musiciens qui savent écouter les autres et partager, et ça aussi, je tenais à le dire. Des excuses à présenter, Daniel, avant de nous
quitter. Évidemment, des excuses. Désolé pour Slimane, dont la musique a été frontalement critiquée, tambourinée par l'infâme Nagui. En même temps, Slimane, je vais vous dire, Nagui, c'est aussi l'homme qui a créé le légendaire duo Black M, Anne Romanoff dans Taratata. Ça devrait vous aider à relativiser. Voilà.
J'étais là, je l'ai vu.
Désolé pour tous nos auditeurs d'extrême droite qui ont été légitimement choqués par cette émission gaucho, bobo, humano qui s'est transformée une nouvelle fois en tribune antiraciste. Je vous comprends, moi-même je me sens pas super bien. Bon, heureusement, on se rattrape dès lundi pour une spéciale France aux Français avec Eric Judor. Et désolé encore.
Et Laure Calamy.
Encore pour Slimane. Voilà, Nagui vous a dit oh, ça vous embête pas qu'on vous parle tout le temps de The Voice et qui a traîné le sujet pendant 25 minutes.
Break, ça sort le 18 juillet. Merci Sabrina Ouazeli d'être enfin revenue dans cette émission parce qu'on on parlait beaucoup de films avec elle, elle venait pas. On est tombé dans la parano.
Non, je suis là, j'adore.
Et Alice David nous a confirmé que vous ne nous aimiez pas.
Ouais, c'est pas vrai. Été...
Si, elle a dit. Ouais,
elle est un peu comme ça, Alice David, elle dit des trucs derrière.
Elle balance. Je pensais que c'était une fille géniale, pour le coup, je l'adore, merde.
Merci Slimane et bravo pour ce premier rôle au cinéma. Break sur le 18 juillet. Nous parlerons donc à nouveau au cinéma avec Eric Judor et Laure Calamy, ça sera lundi. Bon week-end et allez la France, rendez-vous lundi.
Bon week-end.